Vous êtes à l'écoute de Radio Intervalle et pour notre série d'émissions des animaux et des hommes, nous parlerons ces prochaines semaines des ABC de la biodiversité et ce sera en compagnie d'Aymeric Sulman. Aymeric Sulman, je rappelle à nos auditeurs que tu es garde-moniteur du Parc national des Cévennes sur le massif du Mont-Lozère. Je rajouterai que je suis bien sûre qu'il y a d'autres casquettes à côté. On a parlé de l'Atlas de la biodiversité parce que cela va reprendre. D'ailleurs, je pense que ces prochaines années, il y aura des enquêtes qui se feront un petit peu partout. Enquête n'est peut-être pas un très bon nom, mais en attendant, on va faire des recherches presque fondamentales sur la richesse
du territoire.
Oui,
ça c'est une partie de l'Atlas de biodiversité, mais aussi il y a des animations, de la sensibilisation et surtout de la participation des habitants. C'est très important que les habitants se sentent concernés par ce qui pousse ou ce qui vit autour de chez eux, parce que chacun peut à son échelle participer sans être forcément spécialiste.
Alors tu as participé à ces projets, hein, notamment on a parlé déjà de ces différents villages que sont Saint-Privat-de-Valongue, il y avait Arfi, je crois. Est-ce que c'est arrivé à un moment donné que quelqu'un précisément trouve quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé que ça puisse exister et qu'il en soit véritablement super content ?
Mais je peux citer une personne qui est agriculteur sur Saint-Privat-de-Valongue et qui a une fibre, on va dire, sur l'environnement. Il est curieux de tout. Et depuis des années qu'il cultive sa terre, il observe tout ce qu'il y a autour de chez lui. Et il note ça sur des petits carnets de terrain depuis quelques années. Et en discutant avec lui lors d'une animation qui se déroulait sur son terrain, c'était une sortie à la fois salade sauvage et inventaire participatif avec d'autres personnes motivées, j'ai découvert qu'il avait vu des espèces qu'on ne connaissait pas encore dans le coin. Et donc c'était remarquable. Donc cette personne, autant la citer, hein, c'est Samuel Zimmermann, hein, sur la commune de Saint-Privat-de-Valongue. Et voilà, c'est toujours intéressant de tomber sur des gens qui en fait sont discrets, mais ils en connaissent un rayon en fait sur leur commune et sur leur biodiversité. Donc ça, c'est on se sent épaulé par des habitants du coin pour aider à faire connaître et à conserver. C'est quand même génial.
Alors on parle du passé, mais il y a le présent et l'avenir. C'est l'occasion de dire à nos auditeurs qu'ils pourraient faire de très belles découvertes s'ils se joignent aux ABC de la biodiversité de ces prochaines années. Mais là, on parle encore un petit peu du passé, parce que c'est intéressant de savoir véritablement si marcher à droite, à gauche, en groupe, on permet de pouvoir déboucher sur de véritables études sérieuses. Et c'est le cas, parce que déjà, les deux émissions précédentes nous le prouvent. On va parler de Florac Trois-Rivières. Alors pourquoi Florac Trois-Rivières ?
Alors Florac Trois-Rivières, c'est la réunion de deux communes, Florac tout court et La Salle Prunée. Et c'est du coup une commune qui est beaucoup plus vaste qu'elle ne l'était autrefois et qui est traversée effectivement par trois rivières, le Tarnon, le Tarn et la Miminte.
Alors là, on est dans un gros village, on pourrait même dire une petite ville, très fréquentée également durant la période touristique. Hein. Alors, est-ce que ça n'est pas un espèce de bémol, quelque part, que de choisir un endroit qui est véritablement, on va dire, citadin, et dans un centre qui est quand même bien groupé, c'est vrai. Mais est-ce que ça n'impacte pas la biodiversité ?
Oh ben, certainement, oui. On ne peut pas dire que l'humain n'impacte pas la biodiversité, c'est évident. Mais il y a quand même, à côté de la partie citadine, hein, de Florac, des vastes zones très très sauvages, hein. Ne serait-ce que les rochers de Rochefort qui dominent la commune de Florac, qui sont fantastiques au niveau botanique, même au niveau des oiseaux qui y nichent. Et sur la Salle Prunée, la partie ancienne de la Salle Prunée qui fait partie maintenant de Florac Trois-Rivières, et il y a des parties sur les crêtes qui sont assez intéressantes, hein, des parties de vieilles forêts tout à fait au sommet de Florac. Au-dessus du col du Sapé, hein, pour ceux qui connaissent. qui sont assez remarquables. Et les bords de rivière, globalement, sur que ce soit la Mimente ou le Tarnon ou même le Tarn, ils récoltent un peu toutes les graines du bassin versant en amont et ils sont très riches.
Alors, on a parlé précédemment de Saint-Privat-de-Valongue, où on disait qu'il y a pratiquement entre 900 à 1000 mètres de dénivelé entre le point le plus bas et le plus haut. Qu'est-ce qu'il en est de Florac dans le cadre justement de ces recherches sur la biodiversité de la commune?
Alors, Florac est assez différente hein, par rapport à Saint-Privat-de-Valongue. D'abord, elle est entièrement sur le bassin atlantique, les rivières coulent vers l'Atlantique, donc elle a une influence méditerranée moindre. Elle est également avec des extrêmes d'altitude moins élevés, mais tout de même, on commence pour la partie la plus basse à 570 mètres au niveau en aval de la confluence du Tarn avec le Tarnon. Donc c'est à 570 mètres, mais ça monte sur deux côtés différents, assez haut, puisque sur le côté Causse, ça monte à 1166 mètres pour être exact. Et sur la partie granitique vers Serre de Mijavol, sur l'ancienne partie de la Salle Prunée, ça monte à 1200 mètres. Donc il n'y a pas 1000 mètres de dénivelé, il y en a quand même 700. Donc c'est quand même colossal, mais c'est surtout une grosse diversité géologique puisqu'on a les trois roches classiques des Cévennes. Il y a un peu de granit sur la partie de Serre de Mijavol. Il y a du schiste qui domine sur les Cévennes et évidemment la partie calcaire qui est très importante et très remarquable.
Alors c'est très intéressant parce que là c'est quelque chose qui n'était pas le fait des autres communes dont on a déjà parlé. Est-ce que là ça va impacter les animaux? Parce que ça ne me donne pas l'impression que ça pourrait impacter les animaux qu'on soit sur du granit ou sur du calcaire, mais c'est surtout je pense la flore qui va être impactée, non?
Ah ben, tout dépend de quels animaux on parle. Évidemment, si on parle du sanglier, du cerf, du renard, qu'on soit sur granit ou sur schiste ou sur calcaire, ça n'a pas beaucoup d'influence.
Mais ça pourrait changer pour les papillons, peut-être.
Alors, pour les papillons, ça va tout de suite changer, puisque les papillons, leur nourriture principale, ce sont des plantes. Et donc, les plantes, elles, sont très dépendantes de la roche sur laquelle elles poussent. Ça va aussi beaucoup influencer tous les insectes qui sont mangeurs de plantes, donc c'est la plupart d'entre eux d'ailleurs, sauf les insectes entre guillemets carnivores ou insectivores. Mais pour donner des exemples concrets, tout à l'heure, enfin, sur une autre émission, on parlait de la proserpine, qui est un papillon qui mange une aristoloche, qui est une plante qui pousse uniquement sur calcaire. Et donc la proserpine, si on veut la trouver sur Florac, il faudra chercher des coteaux un peu chauds qui ont cette espèce. Et il est tout à fait possible d'ailleurs qu'on la trouve. Pareil pour d'autres espèces qui pousseraient sur schiste. Et on peut aussi parler d'un insecte qu'on va essentiellement trouver plutôt sur des crêtes schisteuses ou granitiques. Donc on pourrait dire qu'il y a des préférences pour la silice. C'est un petit criquet qui est d'ailleurs endémique du sud du Massif central. Ça s'appelle le criquet de l'Aigoile. Et ce criquet de l'Aigoile, on ne le trouve que sur les crêtes schisteuses. Il n'est pas du tout rare. Simplement, on ne va pas le trouver au cœur du Causse-Méjean.
Combien il y a de personnes à chaque fois qui se déplacent? Est-ce que les chiffres changent beaucoup entre Arfi, Florac, Genolac, Saint-Privat-de-Valongue? Donc ça, c'était déjà les premières expériences, en quelque sorte. Et est-ce que depuis, les groupes ont grossi, se sont densifiés?
Sur les animations proprement dites, comme on les limite en termes de nombre, sauf cas exceptionnels de diaporama ou de journées un peu spéciales, on reste quand même dans des ordres d'idées de 15 à 20 personnes maximum pour pas faire des animations théâtrales. Voilà, c'est pas le but. Le but, c'est que chacun puisse se pencher presque à quatre pattes avec une loupe à chercher des choses. Et donc, c'est plutôt de cet ordre d'idées-là. Voilà. 15 à 20 personnes par animation. Ensuite, sur des journées un peu spéciales, il y a eu un peu plus de monde. Notamment, j'aimerais bien parler de cette animation qui a été organisée par la Fédération de pêche, l'association Quatre Rivières à Florac et Supagro. Ces trois organismes se sont réunis pour proposer au public une animation dans le cadre des atlas de biodiversité sur la vie aquatique. Et notamment, cette chose qu'on ne soupçonne pas, en fait, quand on va se baigner dans une rivière, c'est toute cette vie très discrète qui est sous les cailloux, dans l'eau, ce qu'on appelle les invertébrés aquatiques ou les insectes aquatiques, si on veut. Et il y a une énorme richesse dans ce domaine-là qu'on ne soupçonne pas et qui évolue très rapidement en fonction de ce qui se passe dans une rivière. Et il y avait un spécialiste qui était là au rendez-vous pour raconter qu'est-ce que racontent ces bêtes-là? C'était Bruno Righetti, que certains connaissent, qui est un grand spécialiste de ce domaine des invertébrés aquatiques. Et donc l'animation s'est déroulée en deux temps. À la fois, pour les enfants, il y avait une pêche organisée de toutes ces bêtes. Alors, ça ne se pêche pas avec un hameçon et un fil. Ça se pêche avec des petites épuisettes, avec des choses très simples. En fait, on soulève les cailloux, on gratte, entre guillemets, ce qu'il y a sous les cailloux. Et ensuite, on regarde ça à la loupe. Et en fait, il y a une grande diversité de choses qui s'animent, en fait, sous les cailloux. Et d'une part, une pêche d'un côté. Puis un commentaire par ce spécialiste qui dit, ben voilà, et toutes ces bêtes qu'il y avait là, elles n'étaient pas présentes autrefois parce qu'il y avait un plan d'eau. Et le fait que le plan d'eau a été rasé, alors ça handicape un peu les baigneurs qui sont obligés d'aller un peu plus loin se baigner, mais par rapport aux insectes aquatiques, ça remet en place un fonctionnement plus naturel de la rivière. Et très rapidement, ce qui est assez rassurant, c'est que la rivière revient très vite à son optimum naturel, ce qui a pu être mis en évidence grâce à cette journée. Et puis, une autre partie de la journée, c'est une pêche électrique qui s'est déroulée, donc qui concernait plutôt les vertébrés aquatiques, c'est-à-dire les poissons. Donc, qui a permis un peu à tout le monde de se sensibiliser à cette technique de pêche qui est très encadrée, hein. Qui est fait par des spécialistes et où on s'aperçoit qu'il y a en fait plus de poissons qu'on imaginait dans une rivière. Il y a 5, 6, 7 espèces dans une rivière où on a l'impression qu'il y a que de la truite ou que du barbeau. En fait, il y a beaucoup plus d'espèces dans une rivière qu'on l'imagine.
Alors finalement, parce qu'on va, je pense, reparler encore de beaucoup d'observations qui ont été faites, chaque fois qu'on a parlé précédemment d'Arfi, de Genolac, de Saint-Privat-de-Valongues ou bien maintenant de Florac-Trois-Rivières, le bilan est positif finalement.
Alors évidemment, quand on s'intéresse à la nature, il y a des mauvaises nouvelles, des fois, des choses qui se passent qui sont moins favorables à la biodiversité, c'est certain. Il y a aussi des très bonnes nouvelles sur lesquelles il faut toujours insister parce que c'est ça qui nous motive à continuer ce travail, entre guillemets, mais aussi cette joie à découvrir la nature en permanence. Donc oui, il n'y a pas que du positif, mais voilà, si on veut continuer, il faut beaucoup insister sur ce qui nous motive, quoi.
Merci Aymeric, le temps passe très vite. On a parlé de ces quatre premières communes qui ont participé de cette démarche d'atlas de la biodiversité communale. On se retrouvera pour parler des autres, c'est-à-dire les quatre premières, c'était en 2017. On va entamer une nouvelle année encore de recherche, mais il y a donc d'autres communes qui se sont greffées à ces projets. Est-ce qu'on peut donner juste leur nom et on en parlera plus
Alors,
tard?
en 2018, il y a eu cinq nouvelles communes qui ont candidaté pour faire un atlas de biodiversité. Il y a eu Pont-de-Montvert, Valrhaugues sur les Gouales, Sumène, Saint-Martial et Saint-Romain-de-Codière, également sur le massif de les Gouales. Et puis en 2019, donc cette année, quatre nouvelles communes. Saint-Paul-le-Jeune sur la partie ardéchoise du parc, La Malaine à l'autre bout, dans les gorges du Tarn, Saint-Michel-de-Dèze dans la Vallée Longue et Saint-Martin-de-Lanzuscle, donc une petite commune des vallées Cévenoles.
Pour toutes celles et ceux qui s'y intéressent, comment est-ce qu'on peut participer à ces prospections?
Alors, j'invite chacune des communes à d'abord consulter chacun des habitants qui veut participer, à consulter soit le site du parc où l'ensemble des animations qui vont être proposées sur les communes sera centré, concentré, et va et surtout se rapprocher de chacune des communes sur lesquelles ils ont envie de participer pour avoir le programme détaillé des animations.
Alors, est-ce qu'il faut obligatoirement être un des habitants de la commune ?
Évidemment, ces animations, on souhaite qu'elles soient dirigées vers les habitants de la commune pour que ce soit eux qui prennent en main, prennent en charge leur biodiversité. C'est vraiment eux de s'approprier leur biodiversité. Mais qu'il y ait des personnes de l'extérieur qui viennent aussi et que, au final, cette démarche fasse tache d'huile sur d'autres communes qui ne sont pas en atlas de biodiversité, ce n'est pas gênant non plus.
Merci Aymeric, j'ai un tableau sous les yeux, ça fera partie des émissions que nous ferons encore ensemble, par exemple des nombres d'espèces connues à Valrogue en 2017. Il y avait par exemple des rapaloceres et je ne sais pas du tout ce que c'est.
Ah oui.
Et il y en a 202 espèces, les rapaces, 46 espèces autres que le vautour. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, nous aurons l'occasion d'en reparler. Et les chiroptères, les fameuses chauves-souris, 33 espèces sont présentes, 4 espèces de vautours, donc ça veut dire qu'ils y sont tous, si je ne me trompe.
Oui.
Les passereaux, 233 avec les galliformes, ou bien encore les coléoptères. Alors là, ouais. C'est vraiment le top du top. Ils sont presque 890. Bon, ça ne change pas beaucoup de choses pour le panorama et je pense les invitations touristiques. Mais voilà, ce sont des choses magnifiques. Alors les reptiles, ce ne sont pas que les serpents. Reptiles, amphibiens, 20 espèces. Est-ce que c'est beaucoup ou pas ?
Oui, on a la chance dans le parc national des Cévennes d'avoir une influence méditerranéenne assez forte sur toute la partie sud. Et également quelques influences montagnardes où on a des espèces un peu particulières sur les hauteurs. Et le fait d'avoir ces deux influences qui se confrontent, on a à la fois les espèces très méditerranéennes et à la fois les espèces montagnardes. On a par exemple le psamodrome qui est un lézard très particulier de la partie du piémont calcaire des Cévennes. Et puis on a tout en haut, sur les tourbières du Mont-Lozère, le lézard vivipare qui arrive à survivre aux gelées des sommets.
Merci Aymeric. Je rappelle que tu gardes moniteur du Parc national des Cévennes sur le massif du Mont-Lozère. Je t'ai invité à venir nous parler de l'Atlas de la biodiversité. Il y aura encore bien d'autres choses à dire. Et parce que sur le tableau de la connaissance faunistique, j'ai trouvé des noms que j'ignorais totalement. Je pense que dans une prochaine série d'émissions, nous parlerons de ces insectes et autres grands vautours. Je pense que c'est l'animal peut-être le plus grand. Bon non, parce qu'il y a les sangliers...
Les cerfs
également, etc. Donc on aura l'occasion de reparler un petit peu de la richesse ou de l'inquiétude qu'on pourrait avoir de la disparition de certaines espèces également.
Oui.
Dans une prochaine émission. À bientôt.